Les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Nous allons aborder ce que l'on nomme le cycle de la vie. En fait, la vie, dans son cycle, de naissance et de mort. Une remarque préliminaire est que la vie est cyclique. Il y a là une difficulté. En Occident, on a souvent tendance à considérer la vie comme étant linéaire, comme allant de la naissance à la mort, du début jusqu'à la fin. En fait, la vie n'est pas linéaire, mais la vie est circulaire, est un cycle. Dans la nature, dans la vie naturelle, il y a toujours apparition, disparition, printemps, été, automne, hiver, printemps. La graine pousse, devient un arbre, qui donne fruit, qui redevient graine. Il y a ainsi toutes sortes de cycles naturels. La vie est un cycle naturel. Et ainsi, il y a pour nous naissance, puis croissance, adulte, puis vieillesse, puis mort. Et la vie continue. La mort d'une personne n'a jamais été la fin de la vie. La vie continue bien évidemment au-delà de la mort d'une personne ou de qui que ce soit. Il y a là une difficulté. Nous allons y revenir. Peut-être déjà de nous rendre compte que la mort est un thème, un sujet grave qui nous concerne tous. Nous sommes tous mortels. Nous allons tous mourir un tout petit peu plus tôt, un tout petit peu plus tard. On ne sait pas quand ni comment. Et il y a face à la mort une incertitude, une crainte, une peur. La mort est mystérieuse et la mort est là où se situe la peur, les peurs les plus archaïques, les plus profondes. Au fond des peurs, il y a toujours la peur de mourir, la peur de disparaître, la peur de ne plus exister, la peur de se perdre, d'être perdu. Et c'est là que se situe la mort, la peur de la mort. Donc, nous y sommes tous confrontés et il y a là le point crucial d'un cheminement spirituel et aussi de la réalisation. La question qui se pose est qui meurt, qui naît ? Qu'est-ce que c'est qui naît ? Qu'est-ce que c'est qui meurt ? Alors peut-être vous me diriez, c'est moi. C'est moi qui nais, c'est moi qui meurs. Bonne réponse, peut-être. Mais alors, la question est, qu'est-ce que moi ? Qu'est-ce que moi qui nais? Qu'est-ce que moi qui meurs? Le mystère de la mort est lié au mystère, si on emploie ce terme, de l'existence, de ce que je suis, de la conscience que je suis. Sache ce que tu es et tu connaîtras ce qu'est la mort et tu connaîtras la libération, la délivrance de la mort. Je, du point de vue de l'éveillé, n'a pas de réalité véritable. J'existe dans l'impression que j'ai d'exister séparément, mais il n'y a là qu'une impression, qu'une illusion. D'un certain point de vue fondamental, la mort est la fin d'une illusion. Si ce que je suis maintenant n'a pas véritablement d'existence réelle, la mort n'a pas non plus véritablement d'existence réelle. Et pourtant, m'identifiant à moi, croyant exister vraiment comme une entité, comme une réalité stable, autonome, durable, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de disparaître. Il y a, par rapport à la question du cycle de la vie et de la mort, le problème ou la question de l'âme. Dans certaines traditions, l'on croit que l'on a ce que l'on nomme une âme, qui serait une chose ou un esprit stable qui durerait d'existence en existence, qui transmigrerait, une transmigration, une métempsychose, différentes versions. Ce que le Bouddha découvrit, c'est que l'âme n'existe pas. N'existe pas autrement que comme une impression qui nous fait croire que nous sommes solides, réels, stables, permanents, et qui nous fait développer une sorte de fantasme de continuité qui donne cette notion d'âme. En fait, l'âme, c'est l'ego. C'est le moi, l'ego, l'illusion de l'ego. Ce qui situe la perspective du cycle de la vie, du cycle et de la continuité de la conscience de vie en vie dans un contexte qui est différent du contexte animiste, somme toute, de ceux qui croient en la réalité d'une âme. Alors, lorsque l'on suit la tradition du Bouddha, souvent l'on vous dit « Ah, vous êtes bouddhiste, alors vous croyez en la réincarnation. » Et quand on me dit ça, je dis « Oh non, surtout pas. Surtout pas d'abord parce que dans la tradition du Bouddha, l'on apprend à ne pas croire. La croyance est une aliénation mentale. Et d'abord, en plus, la réincarnation, qui est un terme occidental moderne, ça n'existe pas vraiment dans la langue traditionnelle, même si des bouddhistes éminents aujourd'hui l'utilisent pour des raisons qui sont devenues des raisons d'habitude langagière. Réincarnation suppose ou implique le retour dans la chair, une réincarnation, une recarnation, un retour dans carne, c'est la chair, comme s'il y avait dans une image une petite boîte noire indestructible qui serait l'âme et qui passerait d'un corps à un autre corps. Le Bouddha a enseigné que c'est là une illusion. Il n'y a pas ainsi d'âme permanente qui continue de corps en corps. Donc la réincarnation, comprise ainsi dans une compréhension populaire ou naïve, n'existe pas ou est simplement une illusion. Alors, il y a dans certaines présentations populaires une version de la Renaissance qui, alors, il n'est plus juste de dire Renaissance à la place de réincarnation déjà, une version de la Renaissance qui nous fait comprendre que l'on récolte ce que l'on sème. Et là, c'est juste. Mais il y a une responsabilité. Si tu veux savoir ce que tu fis, vois ce que tu es. Si tu veux savoir ce que tu seras, vois ce que tu fais. Donc, il y a une continuité du passé au présent et du présent au futur. Et dans cette continuité, il y a une responsabilité. Nous sommes responsables au sens où ce que nous faisons aujourd'hui, maintenant, va déterminer ce que nous serons ultérieurement. La question de la continuité est la question délicate. L'exemple qui fut utilisé il y a longtemps est le suivant. C'était dans le Gandhara, dans cette région hellénistique et bouddhiste qui est aujourd'hui Pakistan, Afghanistan, peu importe. Le roi de cette contrée bouddhiste, un certain Ménandre, c'est son nom, Hélène, ou Milinda, qui était formé à la philosophie grecque et à la dialectique, donc un esprit plein de discernement et vif, discute avec un sage bouddhiste du nom de Nagasena. Et justement, Ménandre lui dit, mais alors, dans votre vision, ainsi, qu'est-ce qui continue dans la vie de naissance en naissance? Et Nagasena, sage avisé et réalisé, lui dit, roi, grand roi, s'il vous plaît, considérons. À la porte de votre palais, le soir, il est des gardes. Le roi, certes. Ces gardes veillent toute la nuit. Le roi dit, oui, certes. Les gardes, au début de la nuit, le premier quart, veillent en tenant un flambeau qui éclaire. Oui. Puis vient la relève, le deuxième quart, et les gardiens du deuxième quart allument leurs flambeaux aux flambeaux des gardes du premier quart et veillent pendant le deuxième quart de l'année. Oui. Puis la relève, le troisième quart, ils allument leurs flambeaux à ceux du deuxième quart. Puis vient le quatrième quart. Le quatrième quart, c'est l'aurore, juste avant. Ils allument leurs flambeaux à ceux du troisième quart et ils veillent jusqu'au lever du jour. Oui. Et Nagasena lui dit, eh bien, grand roi, que diriez-vous? Le feu qui brûle dans le flambeau du quatrième quart de la nuit et le feu qui brûle dans le flambeau du premier quart de la nuit. Ces deux feux sont-ils le même ou sont-ils différents? Alors, il y avait le feu, il est passé, le feu du premier quart au deuxième, troisième, quatrième. Il y a continuité du feu avec des supports différents. Et Melinda Ménandre, qui était intelligent et avisé, lui dit, ça n'est pas vraiment le même feu, mais ça n'est pas non plus vraiment un feu différent. Et Nagasena lui dit, eh bien, pareillement, le grand roi, ce qui continue ainsi de vie en vie n'est ni le même ni différent. Là, la réponse peut sembler difficile à comprendre et elle mérite d'être méditée. Il y a une continuité sans entité. Il n'y a rien de stable dans le feu, il n'y a pas d'entité, il y a une énergie qui se transmet, une énergie qui continue et qui peut même se transmettre de support en support, de flambeau en flambeau. Continuité sans entité. Et continuité d'une énergie, continuité de ce que l'on nomme des samskaras ou karma. Ici, le karma ou les samskaras, les empreintes formatrices constitutives, qu'on peut aussi dire des informations au sens de ce qui met en forme, ce qui informe la conscience. Et comme ce feu qui continue, alors continue dans même ce que l'on nomme le substrat, qui est le fond, et qui redonne, remodèle, réinforme des consciences individuelles de naissance en naissance. Donc, c'est la vision de la renaissance ou du cycle de la vie dans sa dynamique de naissance et de mort et dans leur continuité, telle que le Bouddha l'a enseigné et développé aussi dans ce qu'on appelle les 12 facteurs interdépendants, les 12 facteurs de la production interdépendante de l'existence, des existences et de la conscience. Donc, le cycle de la vie, ainsi, tourne, la conscience continue dans des cycles, dans une pulsation, aussi longtemps que ces informations inductrice perdure. Il y a la fin de ce cycle, la fin de la conscience dualiste, qui est aussi ce que l'on nomme la grande mort, qui est la mort de l'illusion, la fin de l'illusion, la fin de l'individualité, la fin de l'ego, son extinction, l'illumination et l'extinction de l'ego, l'extinction de la dualité. C'est la grande fin, le grand achèvement, Dzogchen, le grand épuisement, la fin du karma, la fin de la dualité, l'éveil, l'ultime libération. C'est la fin du samsara. Quelques instants de méditation et de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.